Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Alors à gauche désormais, il y a deux candidats officiels à la gauche de la gauche, hein, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Fabien Roussel pour le Parti Communiste, et deux nouveaux candidats cette semaine, chez les écologistes pour la primaire en tout cas, Yannick Jadot et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ils sont donc trois, hein, parce qu'il y avait déjà Sandrine Rousseau, l'ex numéro 2 des écolos. Pourquoi à votre avis ce coup d'accélérateur spécifiquement cette semaine?
Parce qu'il faut profiter quand même, effectivement. D'abord, avant les vacances, hein, on entre dans les vacances, il fallait profiter tout de suite. Et puis, bon, les écolos, ils vont être trois ou quatre candidats, à mon avis.
Mais ils sont trois pour l'instant.
Mais plus ils se neutralisent les uns les autres, ça ne me dérange pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, aujourd'hui, elle a deux pieds. Elle a un pied qui s'appelle le Parti Socialiste, et on a vu qu'il résistait dans ses fiefs un peu partout. Et on a le deuxième pied, c'est les écolos, qui ont fait des résultats qui ont été plus discutés. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il ne peut y avoir, pour arriver toujours le deuxième tour, il faut 20 points pour être au deuxième tour, il faudrait un candidat ou une candidate qui fasse l'alliance entre les deux pieds. Ça peut arriver, et c'est ce que vise Mme Hidalgo. Sauf que je pense que Mme Hidalgo n'y arrivera pas. Elle ne sera pas la candidate consensus. Et il y en a une, alors là, je vais risquer, et je vais vous faire rire, mais on est là pour rire aussi.
Allez-y.
Je vais vous dire que j'ai trouvé formidable Madame Carole Delga,
oui,
qui a été élue brillamment dans sa région, l'Occitanie. C'est un peu ma région de mes ancêtres, alors donc c'est une région que j'affectionne. Et elle a toutes les qualités. Elle a un accent, elle est du peuple. Elle est quelqu'un qui sait. C'est la méritocratie républicaine, elle typique, et elle n'a pas tout ce rejet, cette capacité de cristalliser les rejets qu'a Hidalgo. Madame Hidalgo a tous les rejets et elle a tous les autres avantages.
Oui, la candidate qu'on n'a pas vu venir,
non, mais
Carole
Delga. La question que vous posez, c'est le coup d'accélérateur.
Oui.
Le coup d'accélérateur, il est lié uniquement aux écolos. Et c'est pour affirmer leur prééminence sur le Parti Socialiste. C'est ça, le coup d'accélérateur. Alors maintenant qu'il y ait Delga, et c'est vrai que non seulement elle a été élue brillamment, mais en plus elle a fait progresser son socle électoral.
Non, mais vous avez vu le changement de pied
dans cette élection.
Vous avez vu le changement de pied du Parti Socialiste. C'est même, il y a quelque chose de presque ridicule à l'idée que juste avant les élections, Olivier Faure pour le Parti Socialiste disait « Bon, il faut comprendre qu'une force majeure, c'est les écolos, on peut se mettre derrière ». Et puis, dès que les élections ont eu lieu, il a au contraire dit non, la force majeure, c'est le Parti Socialiste, et donc tout s'engage.
Et il dit qu'Hidalgo serait excellente.
Oui, voilà. Non, mais c'est la thèse d'ailleurs, dès le départ de François Hollande, qui était contre la position de Faure.
Sur les écolos, bien sûr, en disant nous sommes encore la première.
En disant ne nous laissons pas faire. Alors, la prééminence, c'est le Parti Socialiste.
Donc on sent quand même que les ferments de division que nous évoquions sur la droite,
oui,
existe aussi sur la gauche. Quand on a quatre candidats verts qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Parce que Jadot,
trois officiellement pour le moment.
Jadot est vraiment plus proche du centre droit que les autres. Bon, alors on a quand même un panorama formidable des candidats verts. On a un panorama compliqué des candidates socialistes, on n'est pas encore sorti de l'auberge, sans oublier Mélenchon.
Quand Mélenchon dit
« moi je suis un rocher dans cet univers, moi j'existe depuis longtemps, personne d'autre que moi existe », quelque part, on ne peut pas lui donner tort.
Catherine,
on ne peut pas lui donner tort, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'arrête pas de chuter dans les sondages. Mmh. Et là, le dernier sondage, alors on y croit ou on n'y croit pas, il a perdu 16 points chez les sympathisants de gauche. Oui. Alors, il dit j'y vais seul en solo, mais cette fois, il n'a pas le soutien des communistes qui vont partir. Alors, les communistes, qu'est-ce que ça complique une division? Mais grâce aux communistes, alors, est-ce que c'est vrai? Il avait quand même, dans les signatures, au moins 200 maires communistes. Et là, cette fois-ci, est-ce qu'il aura ses signatures? Enfin, je pense que oui. Voilà. Mais je veux dire, il était en bonne position. On se disait, c'est le premier qui est au-dessus de la première fraise sur le panier. Oui. Là, moi, je pense que l'aura du leader du Front National, de la France Insoumise, qui n'est absolument pas contestée.
Qui change de nom en plus.
Hein. Non, n'est pas du tout, est en position moins favorable qu'il y a.
Mais le rock est largement fissuré.
Non, la variété à gauche est quand même assez importante. Ils ne sont pas sur la même position idéologique. Et deuxièmement, vous savez très bien que l'unité obligatoirement ne fait pas le bon score, on l'a vu dans les Hauts-de-France.
Alors, la dans le cas de Mélenchon, il est évident qu'en changeant de nom, puisqu'il change de nom, sa campagne change de nom, le Rassemblement de la Gauche, et il dit « moi, c'est pour être dans la ligne porteuse de l'Amérique du Sud », franchement, on ne peut être que critique.
Alors,
on ne peut
va
pas
continuer,
que stupéfaite même.
Oui, oui. Ma chère Michel, à continuer à parler de cette division à gauche dispersée façon puzzle. Dans un instant, dernière petite pause et dernière ligne droite pour ce débat des grandes voix jusqu'à 11h. A tout de suite. Le débat des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On va parler d'Emmanuel Macron à présent. Juste une dernière question sur la gauche qu'on évoquait avant. Vous vous souvenez de cette photo de famille au mois d'avril où ils étaient tous réunis, les leaders de la gauche, et on avait même entendu...
À l'initiative de Jadot.
Voilà, et Jadot et Hidalgo s'étaient mis d'accord sur le principe pour une candidature commune. C'est encore envisageable aujourd'hui ?
Ah, ça me semble plus difficile, là.
Ça va être compliqué.
Oui, parce que Jadot est candidat. Est-ce qu'il se retirerait pour... ça, je ne crois pas.
Alors, les enseignements maintenant...
Non, il y a un fait quand même notable, moi, je trouve, c'est qu'autour de Mme Hidalgo, non seulement elle a le soutien des partis socialistes, mais de tous les grands élus socialistes.
Il y a eu un appel de 200 élus semaine.
Et donc, il est bien évident qu'à gauche, Mme Hidalgo sera la candidate du Parti socialiste. Et là, vous avez vu la publicité tournée par le premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Faure, qui vient dire de manière extrêmement discrète merci à tous les électeurs socialistes. Vous l'avez vu peut-être ce matin sur les écrans de télé. Il y a un côté comique, mais il y a un côté aussi d'une résurgence quand même du Parti Socialiste classique. Comme ça a été le cas à droite à travers le Parti Républicain.
Et qu'il y avait en effet 5 régions.
Les partis de l'ancien monde, je ne sais pas s'ils sont ressuscités, mais en tout cas, ils ont pesé.
Oui,
ils
alors, sont je disais pas tout à l'heure, pour Madame, ce que je disais tout à l'heure personnellement pour Mme Le Pen, c'est-à-dire, attention, oui, il y a la stratégie et puis il y a le personnage. Je pense que pour Mme Hidalgo, ça joue déjà contre elle. Il y aura peut-être l'union stratégique, la pétition des grands élus, etc. Mais je pense que sur le personnage, cette femme aujourd'hui n'a pas les... Je vais être doux et aimable. N'a pas toutes les qualités requises, bien que réélue maire de Paris, par surprise un petit peu, mais elle n'a pas toutes les qualités européennes.
Ça, c'est doux et aimable. Hein,
oui, pour faire effectivement la bonne candidate de gauche. C'est pour ça que j'ai parlé. Ce n'est pas une blague de Carole Delga dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, qui soutenait jusqu'à présent.
Qui soit authentiquement les tréfonds des socialistes. Elle n'est pas ça, Mme Hidalgo. Bon,
tu as raison. Je crois qu'on ne peut pas finir cette émission sur relever le paradoxe numéro 1. Nous avons tous dit que l'organisation présidentielle était asymptotique à zéro dans les régions. Et ça s'est vu. Moyennant quoi, on a tous dit immédiatement, deux jours plus tard, parce qu'il y a un sondage qui est opportunément sorti, que Emmanuel Macron restait un des leaders pour la présidentielle. Et qu'au fond, il n'avait pas tellement été impacté par cet échec de son parti. Et maintenant, c'est vrai que peut-être beaucoup de gens ne veulent pas d'un débat Macron-Le Pen. Peut-être quelqu'un s'interposera comme Bertrand, au milieu de ce duel, il reste que Emmanuel Macron, on ne peut pas dire il a perdu les régionales, donc il ne sert plus à rien. Ça, ce n'est pas vrai.
Alors, vous faites référence en effet à un sondage qui donnait...
Non, mais
un sondage qui donnait...
Non, mais qu'il ait perdu les régionales,
Emmanuel Macron,
c'est évident.
C'est certain. Oui. Mais qu'il ait perdu la présidentielle, c'est pas du tout évident.
C'est un grand paradoxe.
C'est pas du tout la même chose.
Mais vous faites référence à un sondage qui le donnait à 60% face à Marine Le Pen, 40%, alors qu'il y a quelques jours... Voilà, donc il faut se méfier. On est d'accord. Non, pas du tout. Et il faut se mettre d'accord. Les sondeurs, on les oublie. Je l'avais dit au départ, à un an de la présidentielle, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur le fond, maintenant, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il peut faire dans les semaines qui viennent? On sait que le 14 juillet, il va parler. Est-ce que la réforme des retraites va revenir sur la table et est-ce que c'est un danger pour lui? Il n'y a pas une peur de voir la rue de nouveau, le peuple de nouveau dans la rue, les gilets jaunes ou autre?
Ça, je ne crois pas qu'il y ait un grand mouvement de 2 millions de personnes ou 1 million de personnes dans la rue. Mais je crois qu'il n'a pas intérêt quand même à s'y risquer. Il a peut-être intérêt à dire qu'il fera, dans son programme présidentiel, qu'il fera la réforme des retraites avec la durée à 64 ans, peut-être peut-il l'annoncer, mais si lancé maintenant avec... Nous n'oublions pas le calendrier quand même, c'est important. On est, aujourd'hui, je mets de côté le mois d'août jusqu'à la fin du mois d'août, il reste 8 mois. 8 mois, c'est très court en politique, 8 mois pour la campagne l'avant-campagne et la campagne. Je ne crois pas qu'il puisse faire une réforme grave, enfin fondamentale, comme celle des retraites, pendant ces 8 mois. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? D'abord, il peut gérer, effectivement, éventuellement, la nouvelle crise de la Covid, s'il y en a une, parce que rien n'est impossible, de ce point de vue, et il peut montrer qu'il a quand même, bon, qu'il a préservé un certain nombre de valeurs. Je ne dis pas que tout son bilan, mais simplement, il faudrait qu'il peut-être fasse une campagne qui ne soit pas à nouveau le remake du « en même temps ». Parce que le « en même
alors,
temps »
on voit bien d'ailleurs,
est fini.
On voit bien
c'est
que
cru, Gérard, en même temps.
On voit bien que Gérard Darmanin, par exemple, lorsqu'il dit « le président de la République défend les valeurs traditionnelles de la droite », on voit bien qu'il essaie d'en faire un candidat, mettons, de droite modérée. Et c'est là-dessus, sans doute, que ça se jouera. Mais c'est là-dessus aussi que la bagarre avec Bertrand peut se passer.
Oui,
donc,
mais
bon, il y aura trois droites. Il y aura il y aura trois droites à ces élections, à cette élection présidentielle. La droite de Marine Le Pen, la droite de Xavier Bertrand et la droite du président de la République.
Catherine Ney.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite en Italie, en Allemagne, en France et en Angleterre. Et qui montre que les idées de droite, maintenant, sont majoritaires. Et qu'en France, la gauche, les gens qui se disent on est à gauche, ne sont plus que 24% contre 38% à droite et 17% au centre. Donc, vous voyez, comment vont se dispatcher,
se répartir
ce pôle de voix qui sont à droite et au centre droit. Vous voyez. Donc, est-ce qu'il peut toujours être en même temps?
C'est l'un des enjeux.
Voilà.
Est-ce qu'il n'est pas en même temps quand il donne son interview à Elle cette semaine sur les questions de société, de racialisation, dont on sait que ça fait débat à gauche, hein, notamment.
Non, mais derrière ça, il va sur CBS, il vous dit qu'une partie de l'histoire de France doit être de toute façon repensée, déconstruite. Oui. En même temps, il vient nous parler de racialisme là.
Et qu'il ne faut pas toucher au statut.
Je pense que ce sont des erreurs de parcours.
C'est des sincérités successives.
Et
c'est ça qui est terrible.
Non, des sincérités en même temps.
Pourquoi une erreur de parcours, Charles-Louis?
Parce que la droite classique, telle qu'elle va se répartir, comme vient de l'expliquer sur le plan européen, mais sur le plan français, eh bien, elle a horreur de ce genre de remise en cause et de discours qui attrape tout. Parce qu'il ne fait que ça. En même temps,
sur les
quand il parle de racialisme et que derrière il veut déconstruire une partie de l'histoire de France, etc., c'est tout et n'importe quoi. C'est le en même temps.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que sur des réformes sociétales, il peut quand même avoir plus facilement les voix du centre. Et donc, ajouter à sa position, à certaines positions droitières, les voix du centre, et que c'est sur ce terrain-là qu'il les aura plus facilement.
Mais il avait été élu grâce aux voix de gauche, quand même, n'oublions jamais
ça. Bien sûr.
Et il en a perdu les deux.
Non, mais la preuve, c'est que ce sont, entre nous, ce sont les discussions sociétales qui nous opposent le plus.
Merci, merci les grandes voix, c'est déjà fini pour ce débat, une fois de plus passionnant. Un grand merci à vous, Michel Cotta, un grand merci, Catherine Nem, un grand
c'est
merci.
C'est nous qui vous remercions.
Charles Villeneuve, et merci Gérard Carreau.
Et merci
cette
à toi.
Saison passionnante que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr. Je tiens également à remercier chaleureusement Jean-Luc Arblade
réalisation.
Et Capucine Patouillet qui m'aide passionnément à la préparation de cette émission.
Bravo.
Et à Lionel Gougelot qui assurait l'intérim quand il le fallait. J'espère, chers auditeurs, que nous avons réussi à vous faire prendre un peu de hauteur sur cette actualité politique foisonnante. Je vous souhaite un bel été sur Europe 1. À très bientôt. Tout de suite, Laurent Mariotte avec la table des bons vivants. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Sébastien et bonjour,
bonjour
les grandes voix. Alors ce matin on va s'intéresser à un fromage qui sent bon les vacances, la feta vous savez, au lait de brebis, on va se régaler avec
salé.
Et puis nous ferons aussi un beau dossier sur les desserts fruités rassembleurs de l'été avec le chef pâtissier de Yannick Aleno et Didier Van Kovelaert sera des nôtres aussi. Voilà, vous savez tout, allez à table.
À table, à tout de suite.
Europe 1.